bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cet invité du jeudi. Aujourd'hui, notre invité du jeudi s'appelle Gilbert Caro Duflo. Gilbert Duflo, hein, Duflo tout simplement. Et il est avec nous pour nous parler de plusieurs choses. Alors, il est d'Allègre, déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et à l'Aigle, il y a eu Germaine Tillon. Donc, on va parler pas mal de Germaine Tillon, d'un côté, un peu peut-être dont on n'a jamais parlé sur Radio Craponne. Et puis, on parlera d'un autre Camille Robert. Alors, il vous expliquera pourquoi Camille Robert, parce que c'est quelqu'un qui a écrit une chanson que tout le monde, un jour ou l'autre, a chantée. C'est « Quand Madelon ». Donc, on va retrouver dans quelques instants Gilbert et on commencera avec Germaine Tillon. Et en fait, ça s'intitule « Vergebucht aux enfers ». Alors, mon allemand est peut-être pas terrible, Gilbert, là.
Hein? Hésitant.
Même hésitant, oui, hésitant. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc on va parler de Vergebucht aux enfers à travers les citations de Germaine Tillon. Ben là, je l'ai dit en français. Alors Gilbert, tu nous expliques un petit peu cela, parce que c'est une œuvre en fait. Hein.
C'est une œuvre. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Jean-Pierre. Oui, c'est une œuvre. C'est une œuvre extraordinairement décalée. C'est incroyable. Ça nous dépasse. Et ça a failli dépasser Germaine Tillon aussi. Elle n'a jamais voulu que ce soit représenté avant 2005. Germaine Tillon est née à Allègre en 1907. Son père était juge à Allègre. Ils ne sont pas restés très longtemps à Allègre, ils sont partis vers 1911 à peu près. Et ensuite, elle a fait une longue carrière, puisqu'elle est morte à 101 ans, une longue carrière d'abord ethnologue, on va dire, ethnologue. Et c'est à travers ça qu'on va donner quelques citations d'elle. D'abord ethnologue, après, bon, résistante, c'est très important, c'est pas une question d'importance. C'est simplement son regard, qui est un vrai regard d'ethnologue, y compris sur nous-mêmes. Ce qui va nous étonner pas mal.
Oui, alors puisque tu as préparé beaucoup de citations, alors justement, la première, c'est sur l'ethnologue, hein, et tu vas nous les citer, ces citations.
Alors, je ne suis pas très doué pour lire, mais on va essayer ça. En fait, c'est elle qui parle. Hein. Ouais. Ça sera toute une série de citations. Et pour bien penser que c'est cette dame, d'âge mûr, au moment où elle écrit tout ça, c'est elle qui parle. Et notamment quand elle parle de sa vocation d'ethnologue, elle dit « Comprendre est une profonde vocation de notre espèce, une des visées de son émergence dans l'échelle de la vie. Comprendre est une profonde vocation de notre espèce. Hein? » L'ethnologue est donc d'abord, l'ethnologie, pardon, est donc d'abord un dialogue avec une autre culture, puis une remise en question de soi et de l'autre, puis si possible une confrontation qui dépasse soi et l'autre. C'est comprendre l'autre. À certains moments, on a l'impression qu'elle dit « c'est pas témoigner, c'est comprendre ». Bien sûr, en fait, quand elle écrit, elle témoigne. Mais c'est ce regard sur l'autre qui est rare chez elle, avec une humilité persistante toute sa vie, toute sa vie. Donc elle commencera comme très jeune ethnologue au Musée de l'Homme. Et elle sera envoyée en Algérie. Elle sera prisonnière, faite prisonnière comme résistante. Et même dans le camp de femmes à Ravensbrück où elle sera, elle va regarder la vie du camp, la vie de ses co-détenus. Détenus, c'est pas un joli mot. Des autres prisonnières comme elle. Elle va regarder avec ce regard d'ethnologue. Et alors elle va faire des révélations terribles. Il y a des mots terribles. Ça, il faut le savoir.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on peut dire quand même, d'un certain côté, elle était assez philosophe, non ?
Fatalement. On rencontre tout ce qu'elle a rencontré et que, si j'ose dire, en plus on meurt à 101 ans, on acquiert un zeste de philosophie.
Alors là, tu vas nous parler de la résistance, puisqu'elle a été dans la résistance dès 1940. Elle est rentrée très tôt, elle.
Elle est rentrée tôt, oui. Un petit peu plus tard, on va revenir un tout petit peu là-dessus. Elle commence, alors, ces phrases difficiles. Après, il y en a des rigolotes, rassurez-vous, mais il y a quelques phrases difficiles. « J'avais d'abord le désir de chiffrer avec précision la mortalité de chaque nationalité. » Ensuite et surtout d'analyser les chiffres ainsi obtenus en tenant compte des conditions de vie. Donc elle a été chargée de faire des rapports sur la mortalité dans les camps. Là c'est un regard froid, mais ça ne lui suffit pas. Dire le vrai ne suffit pas, il faut dire le juste. Et je pense de toutes mes forces que la justice et la vérité comptent plus que n'importe quel intérêt politique. Ça, ça commence à faire mal un peu déjà. Quand elle est à Ravensbrück, elle va rencontrer une jeune femme dont le mari était communiste russe et il sera envoyé au goulag. Du goulag, il va être livré aux Allemands au moment du pacte germano-soviétique et il va arriver dans un camp de concentration. Et c'est là qu'elle va apprendre ce qui se passe à la Colima et dans les goulags. Alors on se rappellera qu'il paraît que le bilan communiste était globalement positif. Ce n'est pas exactement ce qu'aura dit Chalamov, Soljenitsyn, Sakharov non plus. Et goulag, c'était Koulak, c'était administration principale des camps. Premier regard, elle est à Ravensbrück. Deuxième regard, les goulags. C'est pas mieux. Elle n'a pas regardé ce qui se passait du côté de Kellogg's et les camps américains, ni du côté des camps anglais, qui étaient avant l'époque nazie. Mais bon. Et puis, elle arrive en Algérie. Elle a toujours son regard de... En Algérie, c'est après, bien sûr. Enfin, c'est avant qu'elle soit faite prisonnière. Et puis ensuite, elle y retourne. Donc, elle continue de regarder, notamment, la façon dont on traite la femme en Algérie. Que se passe-t-il ? L'Algérie est française. Elle regarde ce qui se passe. Entre 1930 et 1945, c'est elle qui parle, j'ai cédé comme beaucoup à la tentation de formuler des différences, des mises à part. Ils ont fait ceci et nous ne le ferions pas. Aujourd'hui, je n'en pense plus un mot et je suis convaincu au contraire qu'il n'existe pas un peuple qui soit à l'abri d'un désastre moral collectif. C'est terrible, ça. Elle nous regarde, nous, Français. Je me garde désormais d'imputer à une nationalité ce qu'il faut attribuer aux pentes de l'espèce. À Ravensbrück, lorsque les Allemands parlaient des Françaises, puisque c'était un camp de femmes, et de la résistance, ils utilisaient les mêmes injures que j'ai retrouvées et reconnues avec tant de honte, 10 années plus tard, dans la bouche des partisans de la guerre jusqu'au bout en Algérie. Elle parle de nous. Ce que nous avons stigmatisé quelques années auparavant chez les nazis, la France libérale, démocratique, socialiste, l'applique à son tour et à sa manière. C'est la preuve qu'aucun peuple n'est à l'abri d'une infection par ce mal absolu. Ça, c'est pas souvent dit. Ça a longtemps été caché et verrouillé. Elle le dit.
Oui, c'est très fort quand même, hein, parce que finalement, elle se rend compte que en 39-45, c'était pas beau, mais c'était pas mieux en 52. Quoi.
Voilà.
Voilà. C'est ça un peu. Hein. Le résumé, court.
Oui, oui. C'est ça. Oui. Elle parle pas de guerre. Non, elle parle des événements, mais elle en parle de façon tellement plus large, ça porte.
Alors après, on va aller là, puisqu'elle a été une des responsables du réseau du Musée de l'Homme.
Oui, voilà. On revient en arrière. Maintenant, on revient en arrière. Ce qui précédait, c'était ses conclusions de dames âgées déjà. Hein. Et là, on revient en arrière. Alors, Germaine Tillon, donc, c'est une des responsables du réseau du Musée de l'Homme, sous la direction de Marcel Mauss. Et elle va raconter donc l'entrée en résistance. Et ensuite, on va arriver au camp de Ravensbrück. On m'a dit de résister. J'ai résisté. Et c'est comme ça que j'ai eu une place réservée dans le train du Nord pour Ravensbrück. Et là, on sent, pouf, il y a un changement de ton. Elle commence elle est au second degré. Troisième, quatrième degré. Et ça va continuer comme ça. Et c'est ce qui l'a elle-même troublée. Car elle l'a dit, ce Verfügbar, on va après dire ce que c'est que le Verfügbar, ce Verfügbar aux enfers, c'est une rigolade. Et au départ, c'était fait pour être dit entre copines. Donc elle l'écrit cachée dans une malle, dans un baraquement du camp. Elle se cache et elle part dans des délires au Xème degré. Si bien que elle ne va pas parler du camp de Ravensbrück de la façon dramatique qu'on imagine. Pouf, ça part au dixième degré, si on veut. On m'a dit de résister, j'ai résisté. Et c'est comme ça que j'ai eu une place dans le train du Nord de Ravensbrück. Quand je suis descendu du train, sur le quai, on ne m'a même pas demandé mon billet. Alors, on est dans la pièce, hein, déjà. Alors, elle proteste et dit « ça suffit, vous avez eu le droit à la carte rose ». Et au transport, et tout. Mais comme débile mental, évidemment, on s'en doutait. Elle met dans la bouche d'une des... Alors, quand on joue le Verfügbar... Alors, Verfügbar, c'est en français. Et Verfügbar, rien que pour nous contrarier, c'est en allemand. Quand on joue cette pièce, qui donc se joue rarement, et depuis 2005 seulement, il y a quelques actrices sur scène... entre 9 et 15 femmes à peu près, et un homme. Et les actrices, elles ont tous des petits noms. Bien sûr, c'est comment dire, quand on connaît l'histoire et quand on voit les personnes qui étaient avec elles, on reconnaît. Mais bon, moi, je connais pas assez bien pour dire qui est qui, mais bon. Alors, Nénette, quand elle parle de l'arrivée au camp, elle dirait « ça m'est égal hein, », comme de débile mental, on s'en doutait. Donc Nénette dit « ça m'est égal, j'irai dans un camp modèle, avec tout confort, eau, gaz, électricité. Le gaz surtout. »
Là, c'est un peu du Charlie Hebdo, à quelque part. Hein.
Oui, oui,
on peut le dire. Oui.
Hein, il y a pire plus loin.
Oui, ah bon,
mais oui, le gaz plutôt. Ouais. Elle a connaissance des chambres à gaz. Ouais. Surtout, peut-être elle a remanié le texte, c'est très possible. Hein, mais elle a connaissance des chambres à gaz. Et elle va redonner un petit échantillon un petit peu plus loin. Donc elle est cachée dans une caisse au fond du bloc 32. Les Nartunnebel, c'est-à-dire les prisonniers... j'allais dire de qualité. Non, mais disons une élite, quoi. Hein. Et le Verfügbar qu'elle va écrire sera publié en 2005. Donc, voilà. Alors, sa réflexion, ce ne sont que des notes très pauvres que j'avais prises au début, que je n'avais prises au début que pour saisir le temps, rester ainsi en état de réflexion, de vigilance et au-delà de soi. Comprendre ce qui vous écrase est en quelque sorte le dominer. Ça, c'est son regard d'ethnologue. Voilà. Elle prend du recul et ça ne devait pas être facile. Voilà, donc on disait, ce texte n'a pas été écrit pour être publié tout de suite. Il a été écrit pour être dit et chantonné par un petit groupe de femmes pas vraiment ordinaires. Bon, Jacqueline Dalincourt, Anis Girard-Postelvinet, c'est la dernière elle est encore en vie, Anis. Quand Germaine Thion est entrée au Panthéon, il y avait avec elle Geneviève de Gaulle et Anise Postelvinet, et on va dire leur secrétaire, quoi. C'est elle qui va maintenant perpétuer, il n'y a plus qu'elle, c'est elle qui va perpétuer la mémoire. Et Denise Jacob Vernet, qui est qui? C'est la sœur de Simone Veil. Et on n'est pas chez n'importe qui, si j'ose dire. Elles resteront toutes libérées en avril 1945. Voilà, donc dérision, décalage et décapage d'ailleurs, distanciation. Alors, le Verfügbar, qu'est-ce que c'est? D'abord, sur le plan de la forme, c'est une opérette, il y a un mot qui m'échappe. Comment on appelait ça à l'époque, quand on faisait... Enfin, c'est une série de sketchs,
ouais, oui,
hein, voilà. Et qui se joue entièrement en rigolant. bien que le sujet soit dramatique. Alors elle l'explique, nous pensons que la gaieté et l'humour constituent un climat intellectuel plus tonique que l'emphase larmoyante. Nous avons l'intention de rire et de plaisanter, et nous estimons que nous en avons le droit, car nous sommes engagés dans l'aventure nationale. Je ne dis pas n'importe quoi, je parle de choses extraordinairement dures, mais je ne veux pas faire pleurnicher avec ça. Et le rire et le chant sont ses armes contre le système concentrationnaire, car c'est ça dont on parle. Alors, elle explique, mais qu'est-ce que c'est que ce Fervucbar ? D'où ça sort cette affaire-là ? Alors, il y a un double niveau. Les Fervucbar, c'était des femmes qui étaient disponibles. C'est-à-dire qu'elles refusaient d'aller faire les corvées, notamment construire des routes et des choses comme ça. On va dire, ah ben oui, c'était les planqués. Pas du tout. Pas du tout. Elles étaient exposées, au contraire, aux brimades et aux expériences médicales. Elles souffraient largement autant. Si on ose dire, il n'y avait même pas le dérivatif. C'est idiot ce que je vais dire. Mais il n'y avait pas le dérivatif de construire une route. Non, il ne faut pas croire que c'était planqué quand on était des femmes disponibles. Voilà, Fervucbar, c'est ça que ça veut dire. Ce sont des disponibles. Alors évidemment, elle va utiliser ça autrement. Le Fervucbar est une nouvelle espèce zoologique, un gastéropode, car il a l'estomac dans les talons. Second degré. Une sorte de bernique, ça c'est pour les Bretons, un clovis ou un chapeau chinois. Cette espèce est anatomiquement classée parmi les animaux inférieurs, mais supérieurs à l'huître, quelquefois femelle, mais le plus souvent rien du tout. Alors, elle va pas écrire les musiques, bien sûr. Alors, elle va utiliser des airs populaires d'Edith Piaf, de Tino Rossi, des petits morceaux d'opéra, des morceaux de chant scout. Oh, c'est gamine de temps en temps, hein. Des petits morceaux d'opérette. Et au milieu de tout ça, sa mère est gazée en 45. Et elle continue. Alors, quelques phrases du Fervucbar, de la pièce, de l'opérette. On t'a pris tes cheveux pour serrer les moyeux. Mais ça ne suffit pas. Tu travailleras, tu ne mangeras pas. Quand tu succomberas, on t'achèvera, on te brûlera et ta graisse encore servira. Alors Nénette demande, elle servira à quoi ? Et on lui répond, mais à faire du savon, à graisser les locomotives. Alors il y a un seul bonhomme qui est le naturaliste. Alors c'est un cours sur ce gastéropode, sur cette bestiole. Donc c'est un cours qui se donne devant les spectateurs. Il y a un naturaliste qui explique. Et puis après, les actrices, les personnages, se parlent les unes les autres, font des réflexions, rigolent, font les andouilles. Et les plus anciennes expliquent aux nouvelles la vie du camp. Mais en fait, la vie du gastéropode. Alors, le naturaliste explique, puisque Nénette, on lui a répondu que elle servirait à faire du savon. Plus tard, elle deviendrait un morceau de savon et de la graisse pour la locomotive. Le naturaliste explique, en tout cas, si c'est la graisse qu'on récupère, vous remarquerez que même post-mortem, notre animal trouve le moyen de saboter. Le sabotage est d'ailleurs le trait le plus remarquable de son activité. Alors, un petit peu plus loin, il ne faut pas s'habituer à la vie du camp. Il ne faut pas s'habituer. S'habituer, c'est accepter. Nous ne nous habituons pas, nous subissons. Et un peu comme tout à l'heure, le gaz, ouvrez-nous la porte, je n'ai plus de feu. C'est donc évidemment le crématorium. Donc c'est une histoire naturelle sur cette espèce gastéropode qui est le Fervucbar. Et donc tout à l'heure, je disais que les Fervucbar, c'est le nom allemand, j'imagine, je ne parle pas allemand, qui désignait ces personnes disponibles, qui refusaient d'aller construire les routes, par exemple, mais qui étaient disponibles pour tout le reste, c'est-à-dire nettoyer le camp, nettoyer les sanitaires et tout, ce qui était très très difficile. Elles étaient toutes malades, épuisées. Donc c'était les privations imposées par les haricots.